Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dur, ce couvre-feu à 18h pour la vie sociale. Plus d'apéro en terrasse, pas de dîner entre amis, mais aussi plus de vie d'église. Pas tout à fait, car au cœur de la tourmente, nombreux sont ceux qui résistent et se démènent pour que l'église ne se réduise pas à une messe dominicale avec masque et gel hydroalcoolique. Parmi eux, des groupes de prière, des hommes et des femmes qui, chacun à leur manière, essayent de suivre l'exemple du pape François lorsqu'il se tenait avec quelques-uns lors du dernier Triduum Pascal, place Saint-Pierre de Rome, incarnant la force et la fragilité de la prière. Une émission en forme de coup de chapeau pour toutes ces bougies qui continuent de briller au cœur de la pandémie et qui préparent, elles aussi, le monde d'après. Prier en temps de Covid, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce mardi où on met un coup de projecteur sur les réalités de la vie chrétienne de notre région. En ces temps si particuliers, elles sont moins légion, toutes ces initiatives, mais bien content de vous avoir autour du plateau. Vincent Rimbaud, vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel, responsable d'un groupe de prière de cette même communauté à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Benoît Furieux, vous êtes responsable du groupe de prière toulousain Saint-Louis-de-France. Bonjour.
Bonjour.
Et est avec nous par téléphone Jean-Didier Sautaudet. Vous êtes religieux, clerc de Saint-Viateur, prêtre et co-responsable des fraternités missionnaires de proximité pour le diocèse de Rodez. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Voilà, merci à vous d'avoir répondu à l'appel. Allez, une question, on va dire, générale pour commencer. Dur, la vie d'église quand il y a un couvre-feu à 18h. Qu'est-ce que vous diriez, Vincent Rimbaud ?
Oui, c'est plus compliqué, ça amène des bouleversements qu'on essaye de s'adapter et de faire vivre cette vie communautaire, cette vie de prière que l'on vivait avant, aussi après 18h. On essaye de s'adapter selon les possibilités.
Et... Ben, Benoît Furieux, qu'est-ce que vous diriez ? Parce que moi, j'ai entendu aussi certains pères de famille dire « Non, mais la vie d'église... » Ah non, alors vous me direz, c'est quand le couvre-feu était à 20h ? J'en entendais certains dire « Mais moi, la vie d'église entre 18h et 20h, ça me va très bien comme ça, à 20h, au moins je suis à la maison. »
Ben, disons, pour nous, c'est un peu particulier parce que nos activités se passent le samedi, en début d'après-midi. Voilà. Et les messes mensuelles ont lieu le dimanche matin. Donc on est moins gêné. Par contre, c'est lorsqu'il y avait le confinement général, là, on en a dû s'adapter.
En tout cas, quand on parcourt l'agenda de Radio Présence, c'est vrai qu'on en voit des courageux qui se démènent aux quatre coins de l'Occitanie. Alors on vous a choisi, vous, mais vous représentez un petit peu les autres. On va commencer avec vous, Vincent Rimbaud. Ça va être l'occasion de découvrir aussi un peu la communauté de l'Emmanuel. Et puis de parler de certains aspects donc, de la prière pour chacun d'entre vous. Et puis, pour la communauté de l'Emmanuel, on parlera, avec vous, on parlera de la prière des frères. Vincent Rimbaud, en ce moment, la communauté de l'Emmanuel, quoi, et la vie est entre parenthèses. Comment vous faites pour vivre cette vie communautaire ?
Alors, notre vie communautaire apostolique se repose beaucoup sur les groupes de prière. Et ces groupes, on s'est un petit peu posé la question pour savoir comment on allait pouvoir les faire vivre en période de confinement. Et alors, par exemple, pour les étudiants, ils ont décalé leur rendez-vous le dimanche après-midi pour se retrouver à Saint-Pierre-des-Chartreux. Et pour les autres, où la vie était peut-être plus compliquée, on a décidé de le faire en visioconférence. Avec toutes les adaptations que ça nécessite, mais l'Esprit Saint ne se laisse pas limiter par les outils techniques et passe malgré tout. C'est nous qui sommes un peu bouleversés, qui avons besoin de reprendre un petit peu nos manières de faire, de les adapter à ce contexte. Mais en tous les cas, on continue de se rassembler et de vivre ensemble la prière.
Alors au-delà des groupes de prière, même si c'est là-dessus qu'on insiste, quand on est communautaire de l'Emmanuel, je sais qu'on a des réunions une fois par semaine, du coup vous faites comment en fait ? Vous réunissez à distance, ça n'est que du distanciel ?
Voilà, alors nous avons ce que nous appelons des maisonnées, c'est-à-dire des petits groupes de 7-8 personnes, 10 personnes pour prier ensemble, pour louer ensemble, pour vivre cette vie communautaire, hein, puisque nous ne sommes pas, même si nous sommes une communauté, mais nous ne vivons pas sous le même toit, donc cette vie communautaire se manifeste par ces rencontres hebdomadaires. Et alors pour certains qui sont à la retraite, je pense, se retrouvent en présentiel, continuent de vivre, mais sur un
créneau. Vous avez des retraités courageux, alors.
Voilà. Et puis pour les autres, ça se passe soit par téléphone, soit en visioconférence, effectivement, sur le soir à 20h30, généralement.
Est-ce que vous vivez en Occitanie? Dans le reste de la France, la communauté de l'Emmanuel s'adapte à peu près de la même manière ou c'est très variable d'une région à l'autre?
Oui, je pense que ça doit beaucoup se ressembler, oui.
Ça ressemble. c'est l'occasion de découvrir un petit peu la communauté de l'Emmanuel. Si vous deviez la représenter, peut-être commencer par dire ce que représentent les groupes de prière pour la communauté de l'Emmanuel, parce que tout a commencé par un groupe de prière autour d'une figure qui était votre fondateur, enfin deux figures, Pierre Goursat et Martine Lafitte, en 1972. Peut-être parlez-nous des débuts. Au début, ça ressemblait à quoi, la communauté de l'Emmanuel?
La communauté est née un petit peu de cette mouvance du renouveau charismatique. Et effectivement, ça a été au tout départ un groupe de prière qui a grossi, jusqu'à ce qu'on se dise que c'était plus possible de continuer comme ça. Il a fallu le couper en deux. Ça a été une épreuve un peu douloureuse, mais finalement, ces deux groupes de prière ont eux-mêmes grossi, jusqu'à ce que ça se démultiplie, tout d'abord à Paris, puis après en France, et maintenant dans le reste du monde.
Alors aujourd'hui, donc, vous êtes, j'ai vu, 11 500 membres dans 67 pays, la moitié donc de ces membres sont en France. Qui sont les communautaires de l'Emmanuel? Il y a tous les états de vie, c'est ça, comme on dit?
C'est vraiment la particularité peut-être de la communauté, c'est de vivre au sein d'une même communauté les états de vie. Donc nous avons des prêtres, des personnes consacrées, femmes ou hommes, et puis des laïcs, c'est-à-dire des familles, des célibataires, des veufs, voilà. Et cette complémentarité est pour nous une très grande richesse, à la fois pour nous soutenir les uns les autres dans chacun de nos états de vie, et puis pour vivre cette mission avec toute complémentarité qu'on peut avoir. Oui.
Alors vous êtes une association publique internationale de fidèles de droit pontifical, pour être tout à fait précis. C'est quoi un peu la couleur de la communauté de l'Emmanuel? Chaque famille dans l'Église a un peu ses caractéristiques. Vous diriez que les vôtres, quelles sont-elles?
Alors nous, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur l'adoration eucharistique. Hein, donc on essaye, chaque membre essaye de passer beaucoup de temps en présence du Seigneur, parce que c'est ça qui va après nous rendre capables d'avoir de la compassion, et qui est aussi un élément important de notre vie communautaire, exercer la compassion, et puis l'évangélisation, que l'on vit chacun dans notre milieu, mais aussi ensemble, la mesure du possible.
En l'occurrence, l'évangélisation, ça peut prendre quelle forme à la communauté de l'Emmanuel?
Alors, il y a beaucoup d'apostolats assez différents. Il y a, de façon traditionnelle, peut-être l'évangélisation directe dans la rue, à la rencontre des personnes. Voilà. Après, il y a beaucoup d'apostolats différents de la communauté. Il y a notamment, je pense, aux sessions de parérémoniales, où se retrouvent beaucoup de familles, de personnes chaque été. Il y a un certain nombre aussi de missions qui ont été initiées par la communauté d'Emmanuel. Je pense à Fidesco, qui envoie des coopérants dans les pays en voie de développement. Le Rocher aussi, qui agit dans les banlieues. Amour et Vérité, qui est un apostolat pour les couples et les familles.
Ça fait une belle communauté, voilà. En tout cas, avec beaucoup de fruits. Alors si on en revient au groupe de prière, quand vous vous réunissez en ce moment, ça ressemble à quoi un groupe de prière de la communauté de l'Emmanuel, avant qu'on parle de la prière des frères, si on vous rejoint donc par le truchement de médias sociaux, qu'est-ce qu'on peut vivre avec vous?
Chacun vient à ce groupe de prière avec un certain nombre d'actions de grâce, de merci à adresser à Dieu, et on se les partage tous ensemble en fait. Hein. Chacun prend la parole, il n'y a pas ceux qui animent et ceux qui viennent pour participer en tant qu'acteurs. Non, c'est tout le monde qui participe et qui vient rendre grâce au Seigneur, et ça donne de très belles choses. Voilà, et ça se passe aussi à travers des chants de louanges.
Donc ça commence par la louange. Après, qu'est-ce que vous vivez en général? Il y a quoi? Il y a un temps d'enseignement, des temps de partage ou...
Il peut y avoir des temps d'enseignement. On aime beaucoup aussi ces temps de partage pour que cette parole de Dieu qu'on a reçue dans la louange, on puisse après l'intérioriser, voir comment elle nous rejoint, nous chacun personnellement dans la vie. En quoi elle nous bouscule, en quoi elle nous confronte à ce que nous vivons. Et puis, quelque chose que notre fondateur aimait beaucoup, c'est qu'on reparte chacun avec une toute petite décision, très petite, mais qui va nous aider à faire un pas de plus, même s'il est modeste, pour avancer dans notre vie de foi, dans notre vie chrétienne, dans notre vie missionnaire.
Alors vous avez dit que vous êtes une communauté du renouveau charismatique. Ça ressemble à quoi une communauté du renouveau charismatique dans un groupe de prière? Et quelle différence peut-être avec d'autres réalités d'église plus classiques?
Alors peut-être la différence, c'est qu'on essaye de...
Vous levez les bras, c'est ça? C'est tout? C'est comme ça souvent qu'on rencontre?
Et on dévisse les ampoules. Ouais. La particularité, c'est de chercher à se laisser conduire par l'Esprit-Saint. et notamment à travers les charismes qu'il donne à chacun des membres, qui sont très différents les uns des autres. Hein, le charisme de choisir un chant peut-être pour l'un qui sera vraiment adapté à ce que le Seigneur veut nous donner ce soir-là. Le charisme d'ouvrir sa Bible et de se mettre à l'écoute pour savoir quelle est la parole que le Seigneur veut que nous entendions ce soir. Le charisme d'interpréter cette parole et d'en redire quelques mots à l'ensemble des participants. Et puis il y a aussi quelques charismes un peu plus extraordinaires, hein, mais voilà, on s'appuie vraiment sur ce que le Seigneur donne, l'Esprit Saint donne à chacun pour vivre ensemble cette prière.
Alors la prière des frères, je voulais qu'on mette un coup de projecteur sur cette réalité. C'est une réalité souvent peu connue dans l'Église. Dans le fond, elle pourrait concerner toute la vie d'Église. Ça ne concerne pas donc que les membres de la communauté Emmanuel ou du renouveau charismatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça ressemble la prière des frères ? Donc à un moment, lors d'un groupe de prière, d'une assemblée de prière, quelqu'un peut demander la prière des frères et après qu'est-ce qui se passe ?
J'ai envie de commencer en citant les proverbes. Un frère qui s'appuie sur un frère est une citadelle imprenable. Et c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de supériorité de celui qui prie pour celui qui demande la prière. Mais c'est à un moment donné quelqu'un qui reconnaît qu'il ne peut pas tout seul s'en sortir d'une situation, d'une vie compliquée. Et donc il s'adresse à ses frères et sœurs pour dire, voilà, j'aurais besoin qu'on prie pour moi.
Alors
donc,
il fait quoi ? Il s'avance, c'est ça ?
Concrètement, il s'avance, il se met à genoux s'il en a possibilité. Et alors, on manifeste cette prière par un geste très simple. Hein, on met la main sur l'épaule pour dire qu'on prie pour cette personne. Mais ça n'a aucune valeur spirituelle autre que celle-ci.
Il n'y a pas de fluide qui passe par les mains.
Il n'y a pas de fluide.
D'accord.
Voilà. Et puis, il fait à voix haute une prière pour confier cette chose qui l'empêche d'avancer dans sa vie spirituelle, ou bien ce problème matériel, ou bien autre chose. Et puis, les membres qui prient pour lui invoquent l'Esprit Saint, invoquent le Seigneur pour... tout simplement, prier pour cette personne et la remettre à Dieu.
Mais donc, la personne donc, s'avance, elle se confie à Dieu, les autres intercèdent pour lui, et donc, vous intercédez quoi ? À voix haute, et là, vous exercez les charismes, comme on dit, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. On se met à l'écoute de l'Esprit-Saint, on peut ouvrir sa Bible pour donner une parole pour cette personne-là.
Donc, ce n'est pas une parole que vous choisissez dans ces cas-là, c'est que vous ouvrez au hasard, en général, votre Bible.
Voilà, c'est ça.
Faut le dire, parce que c'est un peu étrange pour beaucoup, quand même. C'est...
Alors, on n'appelle pas ça le hasard, on appelle ça l'Esprit-Saint qui passe à travers nos mains. Mais c'est vraiment... Il n'y a pas de préparation à l'avance, en tout cas, de cette prière.
Qu'est-ce que vous pouvez recevoir, hormis des textes, comme ça, quand vous priez pour quelqu'un ?
Alors, c'est... Il peut aussi y avoir des images qui nous viennent à l'esprit. D'ailleurs, la personne qui aura l'image n'aura pas forcément l'interprétation de cette image. Ce sera peut-être un autre frère qui pourra l'interpréter. Et cette image peut vraiment illustrer ce que vit la personne qui demande la prière.
Des paroles de connaissance aussi parfois, non ? C'est...
Parfois des paroles de connaissance.
C'est quoi une parole de connaissance, si vous deviez expliquer ça pour les nuls, on va dire ?
C'est une parole qu'on ne peut pas intelligemment... connaître à l'avance, mais qui nous est donné par l'Esprit Saint et qui va aller rejoindre la personne pour qui on prie,
de manière forte,
de manière très forte, voilà. C'est un charisme de la famille extraordinaire et qui manifeste la présence de Dieu dans ce charisme.
Alors il y a une phrase aussi de saint Paul, moi je m'étais tiré, c'est « Portez les fardeaux des uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ ». Si vous deviez prendre pour finir un ou deux exemples de fruits de cette prière des frères, qu'est-ce que ça change d'oser se lancer dans cette aventure ?
Alors, comme fruit, je voudrais vous citer peut-être le frère que j'avais au téléphone hier soir qui me racontait qu'il avait été amené un jour à prier pour une dame qu'il ne connaissait pas. Et en ouvrant sa Bible, il a eu un texte assez difficile d'une veuve, qui venait de perdre son enfant. Donc, je ne sais pas si c'est la veuve de Naïm ou un autre texte. Et il avait vraiment hésité à lire ce passage parce que c'était quelque chose d'assez difficile. Et bon, voilà, il s'est dit, c'est l'Esprit-Saint qui me le donne, donc je vais le lire. Et à la fin de la prière des frères, cette dame pour qui il avait prié était en pleurs. Elle est venue le voir et lui a dit avec beaucoup d'émotion « Vous avez lu l'histoire de ma vie ». Et donc lui qui avait hésité à lire ce texte, en fait, rejoignait vraiment la personne pour qui il avait prié.
Vous aviez un autre exemple?
Un autre exemple aussi, c'est... ça s'était passé dans le cadre d'une maisonnée, une sœur qui demandait la prière.
Maisonnée, c'est donc le rassemblement hebdomadaire de la communauté de l'Ébénel.
C'est voilà. Ça, voilà. Et donc, elle n'avait pas voulu formuler encore vraiment le fond de sa prière, mais elle avait dit qu'elle avait besoin qu'on prie pour elle pour une décision importante. Et le frère de communauté avait l'image d'un chasse-neige qui avançait et elle qui marchait derrière. Et voilà, il ne savait pas du tout l'interpréter, donc il l'a dit tel quel, comme ça. Et en fait, il ne savait pas qu'il était en train de prier pour une personne qui réfléchissait à un appel à partir en mission au Canada. Donc ça a vraiment été quelque chose de très clair pour elle et qui l'a beaucoup aidé.
Voilà, l'Esprit Saint de l'humour, même en temps de Covid, c'est dire. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver, en l'occurrence, ça sera vous, Benoît Florius, pour le groupe de prière Saint-Louis de France. Essayez de voir un peu ce que vous vivez, qui vous êtes, on va dire quel est votre ADN aussi. Et puis on parlera de la prière pour un pays, puisque vous priez pour la France. Ça peut paraître étrange à certains, comme la prière des frères. Avant cette pause, et je vous donnerai les informations à la fin de l'émission, pour ceux qui voudraient rejoindre un groupe de prière de la communauté de l'Ébénel, bien vous tapez emmanuel.info sur Internet. Emmanuel.info et après rubrique près de chez vous, Occitanie.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Prier en temps de Covid, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce mardi traditionnellement dévolu à mettre en valeur les réalités de la vie chrétienne de la région. Ce coup de chapeau à travers donc trois réalités, trois groupes de prières ou presque, ou en tout cas trois groupes de prières. Allez, on va dire Vincent Rimbaud, vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel, responsable d'un groupe de prière à Toulouse. Benoît Flourius, responsable du groupe de prière toulousain Saint-Louis de France, est avec nous aussi. Jean-Didier Sautaudé par téléphone, qui est religieux clerc de Saint-Viateur, prêtre et co-responsable des fraternités missionnaires de proximité du diocèse de Rodez. On va continuer avec vous, Benoît Flourius, pour faire connaissance donc avec le groupe de prière Saint-Louis de France. Même question, depuis mars dernier, ça ressemble un peu à quoi la vie de votre groupe de prière?
Il a été assez bousculé, hein. C'est certain, on a dû s'adapter. Alors je m'explique, en période de plein confinement, on ne pouvait pas sortir, donc là on a établi à des heures précises, enfin des jours et des heures précises, un temps de prière, où tout le monde s'est mis en prière au même moment. Après, lorsqu'il y a eu du relâchement...
Avec application ou pas application,
oui,
c'est ça?
J'ai pu le vérifier. je ne suis pas là pour...
vous avez fait le tour, donc vous êtes sorti, vous?
Non, parce que, disons, comment dire, notre groupe de prière est vraiment une famille. Et il y a des gens qui sont seuls. Pour eux, leur famille, c'est l'Église. Donc, on s'appelle constamment. Et ils m'ont dit, non, là, même si on n'était pas là physiquement, spirituellement, on se sentait unis.
Ça, c'était pour le confinement dur,
ouais,
on va
le
dire.
Confinement dur. Après, quand il y a eu le confinement plus souple, notre rosaire qui a lieu à la Dalbade, généralement les deuxièmes samedis du mois, de 14h à 16h, dans la chapelle de Notre-Dame, les personnes âgées, par précaution, n'ont pas pu se déplacer, mais étaient en communion de prière chez elles. Et les autres personnes qui sont venues ont respecté les gestes barrières. Et on faisait attention, voilà, tout simplement. Je pense que la Dalbade est une église assez grande, bon, voilà. Mais par contre, c'est vrai que le noyau a été maintenu. Concernant les messes mensuelles aussi, bon, ben là aussi, on s'est plié aux normes.
Est-ce que vous sentez un regain de ferveur depuis le début de ce confinement dans ce groupe de prière? L'ardeur est démultipliée en l'occurrence par les circonstances ou pas?
Écoutez, ça fait officiellement, ce groupe existe depuis plus de 19 ans, même si déjà il existait de façon informelle depuis 1994, à l'époque de M. Fernandez, et moi j'ai repris ce groupe en 2002. Il y a eu des hauts et des bas, hein, c'est comme dans une vie de famille, hein, mais je sens quand même que...
Ma question, c'était plutôt autour des circonstances actuelles. Est-ce que les circonstances font que les gens s'éloignent, oui, de la prière, ou au contraire, qu'ils gagnent en ferveur?
Non. Non, je trouve que les gens reviennent un peu plus à la prière face à l'épreuve, et pas simplement à cause du Covid, mais aussi la solitude. Je pense à ces personnes âgées, je pense à ces j'ai des amis, notamment un ami, Étienne, qui est sur une chaise roulante, qui est souvent malade. Lui, ça lui manque de ne pas pouvoir venir. Donc on essaye, disons, de les entourer, et ça a créé des liens encore plus solides, même si physiquement on se voit beaucoup moins.
Alors le groupe Saint-Louis de France, donc vous priez pour la France, c'est en tout cas l'intention profonde. Si j'ai bien compris, votre ADN est lié à l'esprit des apparitions de l'île Bouchard. Alors peut-être faut-il dire un mot de ces apparitions et du rapport avec la prière pour la France.
Bon.
Benoît Flourius.
Alors l'île Bouchard, c'est passé vers 1947, où la Vierge est apparue à l'île Bouchard, qui dépend du diocèse de Tours. La Vierge est apparue à des enfants. Vous me direz, c'est comme pour d'autres apparitions.
Quatre enfants, dont la dernière
voyante vient de décéder il y a plus d'un an, et qui a demandé de prier pour la France et les familles.
Alors expliquez pourquoi, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là?
Alors il faut savoir qu'en 1947, c'était, bon, bien sûr, c'était l'après-guerre, mais la France avait du mal à sortir de cette situation de pénurie. On l'a oublié, mais le communisme était quand même assez triomphant. Il faut savoir qu'en 1947, il y avait énormément de tensions politiques. Même les réservistes à l'époque avaient été rappelés, parce qu'on pensait qu'on allait tomber vers une guerre civile, comme à l'image de certains pays d'Europe. Donc,
les grandes manifestations étaient prévues.
Oui,
par le Parti communiste.
Parti communiste, la CGT, on sentait qu'on allait vers une guerre civile. Et là, je pense, si ma mémoire est bonne, Marthe Robin avait dit à l'époque à son confesseur: « Vous en faites pas, mon père, la France va être sauvée par des enfants. » son confesseur, je dis, mais attends, je comprends pas, qu'est-ce que vous me racontez? Et au fond, c'était l'île Bouchard. Au fond, par la prière...
Donc disons, Marie est apparue à ses quatre petites filles, qu'est-ce qu'elle leur a dit ou qu'est-ce qu'elle leur a demandé?
Mais disons de se convertir et de prier pour le pays, prier pour les familles. Voilà. Et ça vous montre le lien entre ces deux, je dirais, deux communautés naturelles, vous voyez. Voilà. Quand je parle, disons, de pays, c'est pas une idée abstraite. Hein. Enfin, c'est pas une abstraction, c'est une réalité.
Alors, on va y revenir. Donc, votre groupe de prière donc, est né fort de cette intuition. Comment vous vous définiriez, je sais pas, comment vous présenteriez le groupe de prière Saint-Louis de France?
Alors, c'est un groupe qui, comme je vous l'ai dit, qui existait de façon informelle depuis 1994, à l'époque de M. Fernandez. Après, en 2002, je m'en suis occupé, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Vous m'auriez dit, il y a quelques années, Benoît, tu vas t'occuper d'un groupe de prière, je vous aurais rayonné. Mais la Providence a l'art de me prendre toujours à rebrousse-poil. Donc, du coup, on a commencé à créer un chapelet mensuel, comme c'était auparavant. Après, une amie...
Donc essentiellement, c'est chapelet, rosaire et messe.
Et messe, voilà.
Alors c'est peut-être l'occasion de dire un petit mot du chapelet ou du rosaire.
Oui.
Partez du principe que tout le monde ne connaît pas forcément ou que des gens ont des a priori sur ce type de prière. Qu'est-ce que c'est que cette prière apparemment?
Eh bien, c'est une prière que certains vont trouver un peu répétitive, mais qui a été donnée par la Vierge Marie à Saint-Dominique au XIIIe siècle. Qui aide à prier, à méditer les fameux mystères, d'abord les mystères joyeux, il y avait des mystères douloureux et glorieux, et là, le pape Jean-Paul II a ajouté des mystères lumineux.
C'est des mystères de quoi? Des mystères de...
De la vie,
de
du,
la
Christ,
vie du Christ.
De la vie du Christ. Où on se plonge dans la vie du Christ, dans une forme d'intimité. Alors au début... on est un peu, la première fois quand j'ai découvert ça, il y a belle lurette, on s'est dit, bon, c'est répétitif, tout ça, mais au
puisque,
fond...
Puisque, donc il faut le dire, c'est un Notre Père.
Un Notre Père.
C'est cinq dizaines par série de mystères, c'est ça?
Voilà.
Parce qu'il y a cinq mystères, donc ça fait cinq Notre Père et 50 Je vous salue Marie.
Voilà.
Voilà pour chaque mystère.
Pour le mystère joyeux.
Ça en fait un paquet du coup en tout, c'est ça? Vous êtes à plus de 200 du coup.
Eh bien, ça fait quatre
chapelets. Et on répète. Voilà.
Ça, voilà. Alors, en plus, on a des temps de méditation. Donc je vais vous dire, ça dure 2 heures, 2 heures et demie, le rosaire, parce qu'avant on avait un chapelet, mais bon, pour des raisons aussi d'organisation, j'avais pas le temps d'avoir 3 activités mensuelles, et donc on a gardé le rosaire, et j'étais, soyons nets, sceptique, je me disais, ça va être trop rébarbatif, les gens vont pas vouloir venir. Et bien, contrairement à ce qu'on pense, j'avais plus de monde au rosaire qu'au chapelet.
Donc si on reste sur la forme de prière, donc on médite les mystères de la vie du Christ,
voilà.
Donc en disant des « Je vous salue Marie », c'est aussi
voilà,
simple que
voilà.
Ça.
Voilà, un Notre Père, « Je vous salue Marie », avec auparavant une méditation. Et on prend toujours la vie d'un saint différent tous les mois. Voilà. Et en plus, je tiens à le dire, nous avons des intentions, c'est dans une optique un peu d'une France charnelle, à la Charles Péguy, où on médite, on donne des intentions, par exemple, la France... Et les défunts, enfin d'abord les âmes du purgatoire, ça j'y tiens beaucoup. La France et les défunts. La France et les défunts, par exemple, pour l'armée, la police, ceux qui ont servi la cité, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens,
vous
français
priez
ou étrangers.
Vous priez pour les journalistes alors aussi ou pas? On sert la cité nous aussi, non?
Exactement, si vous voulez. Mais bon, là-dessus,
allez, je vous taquine.
On prie aussi bon, pour les malades, forcément. On prie aussi, et chacun peut donner des prénoms de personnes. Voyez, donc on crée ce lien d'amour.
Donc
même
c'est une grande prière d'intercession.
Voilà,
aussi.
Et on va du particulier à l'universel. Vous voyez, après on va prier pour les familles, les couples, les enfants, et ensuite pour le baptême de la France et bien sûr pour la conversion de nos dirigeants. Vous me direz, bon, c'est une nécessité vu la situation actuelle.
Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur un aspect aussi, avant de parler plus particulièrement de la prière pour la France, de ce que ça veut dire. C'est lorsque vous invitez à venir participer donc à votre groupe de prière, vous reprenez une adresse qui a été celle de Jean-Paul II lors de l'un de ses voyages. Donc en l'occurrence, c'était le 1er juin 1980 au Bourget. L'athlète de Dieu, comme on l'appelait, avait apostrophé la foule en disant « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» Est-ce que vous pouvez rappeler peut-être le contexte et comment dire, la force de l'adresse de Jean-Paul II, ce qu'elle signifie à l'époque, et puis nous dire après pourquoi vous choisissez cette phrase?
Disons d'abord pour moi personnellement, Saint Jean-Paul II a été un très grand pape qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup aidé à évoluer spirituellement. C'est pour moi une grande figure de l'Église. Ça n'enlève pas, disons, les autres figures, mais pour moi, personnellement, ça m'a beaucoup marqué. Et c'est vrai que la France des années 70, ayant été très bousculée, je dirais, par une forme d'esprit réformiste, voire même des fois révolutionnaire dans les années 70, l'Église de France était un peu perturbée, pour ne pas dire plus. Et le fait d'avoir ce pape de l'Europe de l'Est qui arrivait et qui a dit en arrivant au début de son pontificat, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors que tout le monde commençait à douter. Je m'en souviens, j'entendais quand j'étais enfant des adultes qui disaient, oh, l'Église catholique, maintenant, c'est sa fin. Vous voyez,
ça va disparaître comme le communisme.
Exactement.
Quoique en 80, on ne disait pas ça encore.
Oui. Non, mais il y avait un état d'esprit défaitiste. Et se voir ce pape qui venait de l'Europe de l'Est, qui avait connu ces pouvoirs totalitaires, et qui annonçait « n'ayez pas peur », et ensuite qui vient au Bourget et qui dit à la France « mais réveille-toi, réveille-toi ». Et ça, beaucoup de Français n'ont pas réalisé sur le moment, mais après, cela a donné des fruits, et notamment, ça a permis, bon ça c'était en 1980, mais ça a permis à des tas de groupes de prière de commencer à se constituer, et surtout à préparer la venue du pape en, 1997. Pour les 1500 ans de la France.
Ah oui, pardon. Oui.
En 1997.
L'occasion du baptême de Clovis et voilà. Donc des journées mondiales de la jeunesse aussi.
Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de groupes de prière à travers toute la France qui se sont créés pour préparer même 10 ans avant la venue du pape.
Alors la prière pour la France, quand on regarde un petit peu, on peut tomber sur le site donc, de la Conférence des évêques de France et voir « Prier pour son pays, prier pour ceux qui le gouvernent est une tradition dans l'Église. Et cette prière est toujours ouverte à tous les hommes et à l'universel. » D'ailleurs, ils ajoutent « Mais cette prière est toujours ouverte à tous les hommes et à l'universel. » Comment vous présenteriez la prière pour un pays? Ça peut paraître un peu étrange, voire un peu nationaliste, entre guillemets.
Ben, écoutez,
on prie pour des personnes en général, pas pour des...
Eh bien, il y a une réalité spirituelle. Vous l'avez même dans l'Ancien Testament. Regardez, je vous donne cet exemple aussi. Quand la Vierge est apparue à Fatima, il y avait l'ange du Portugal. Donc, les nations ont une réalité aussi spirituelle. Ça fait partie des communautés. On prie bien pour les personnes humaines. On prie bien pour les familles. On prie bien pour les nations de tout temps. Vous allez dans n'importe quel pays. Je pense à ce que me disait le père Collat, un de nos anciens aumôniers. Il nous disait, quand il était à Haïti, il me dit, mais régulièrement, on prie pour le pays. Mais c'est tout naturel. Moi, je prie tous les jours pour mes anciens, pour mes morts, pour ma famille. C'est pas pour ça que j'exclus les autres, vous voyez. Et comme je vous ai dit, on va du particulier à l'universel. Et je reprends toujours cette phrase de Gustave Thibon que j'aime beaucoup. On aime les grandes choses que par les petites.
On aime les grandes choses par les petites, oui.
C'est une façon empirique. C'est comme les gens qui vont vous dire des bonnes consciences, qui sont propres souvent à certains bobos, qui vous disent « Oh ben, je me donne de bonnes consciences, je donne 100 euros pour aider les pieds du tiers-monde, mais je ne vais même pas m'occuper de mon voisin qui crève de faim. » Vous voyez ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider. Moi-même, le premier, j'ai des ONG. Mais il faut aussi s'intéresser au prochain.
Alors, est-ce que vous avez été du coup sensible à la démarche qui a été celle donc, des évêques de France? C'était en juin dernier, à l'issue de leur assemblée plénière, ou lors de l'assemblée plénière, les évêques de France ont, au Sacré-Cœur, adressé à Dieu une prière pour la France, à l'approche de la fête du Sacré-Cœur. Il y avait un certain nombre d'évêques qu'on voyait sur les marches, comme ça, dans ce lieu qui a aussi une signification bien spéciale. Et prier pour notre pays en ces temps de pandémie, ça vous a rejoint?
Eh bien oui, tout à fait. Ça rejoint la tradition de l'Église depuis 2000 ans. Ça me paraît logique. Autrefois, dans les campagnes, il y avait bien des prières de rogation pour demander à ce que la météo soit plus clémente. Je pense que ce qui nous manque aussi, c'est... disons, ce pays est en train de crever par un manque d'amour. Mais cet amour filial, cet amour que vous avez pour votre pays, c'est pas un amour exclusif. Moi, ça me paraît tellement logique. Vous voyez, alors je sais que pour nous, beaucoup de contemporains, pour eux, c'est pas le cas, bien que ça change de plus en plus. Hein, de plus en plus. Je crois que beaucoup d'utopies issues des années 60, 70, 80 sont en train de battre de l'aile et on est obligé de revenir. Regardez, Dieu sait qu'on a critiqué la famille. Mais heureusement qu'il y a la famille en cette période de Covid. Vous imaginez, il n'y aurait pas la famille.
Vous voyez ? Voilà pour le groupe Saint-Louis de France, et donc pour la prière pour la France, on pourrait ajouter que ce que Mgr Eric de Moulin-Beaufort, à l'occasion donc de cette prière, avait laissé entendre, c'est qu'en ces temps de transition et de renouveau, tous les catholiques de France demandaient avec persévérance au Seigneur les dons et la confiance de la paix et d'un engagement renouvelé dans la foi et le service de tous. C'était l'adresse en tout cas à Dieu pour la France. Pour le groupe de prière de Saint-Louis, je les redonnerai à la fin, mais en tout cas on peut noter déjà un premier rendez-vous dimanche prochain, donc c'est une messe pour la France, pardon, c'est à la chapelle Saint-Jean-Baptiste à 9h15, prière pour la France et la conversion des francs-maçons, m'avez-vous dit,
oui.
On y reviendra à la fin de cette émission.
Radio Présence à Saint-Gaudens, 94.1. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Prier en temps de Covid, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Coup de chapeau à quelques initiatives et groupes de prières, un groupe de chrétiens qui se réunissent en tout cas pour prier, à l'image donc de tout ce qu'on peut voir défiler en tout cas ici à Radio Présence, de toute cette inventivité, cette créativité en ces temps de pandémie. Autour du plateau, Vincent Rimbaud, vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel, Benoît Florius pour le groupe de prière toulousain Saint-Louis de France et Jean-Didier Sauté, religieux clerc de Saint-Viateur, prêtre et co-responsable donc des fraternités missionnaires de proximité. Alors merci de votre patience, Père Jean-Didier Sautaudet. Peut-être avant de regarder un petit peu ce que sont les fraternités missionnaires et de prendre le temps d'en parler, de voir l'importance de la parole de Dieu dans ces fraternités, qu'est-ce que vous nous diriez du côté du diocèse de Rodez? La vie d'église tourne au ralenti ou vous arrivez encore à vous réunir?
Oui, merci Emmanuel. On arrive encore à nous réunir. Il y a beaucoup d'initiatives propulsées par le synode diocésain qui a eu lieu de 2015 à 2017. Et donc, nous sommes en pleine synodalité. Et donc, il y a des actes qui ont été proposés et qui se déroulent actuellement dans le diocèse. Il y a beaucoup d'initiatives, donc voilà.
La vie d'église qui se finit à 18h, c'est pas un casse-tête quand même pour un prêtre comme vous?
Oui, c'est un casse-tête, mais il faut toujours s'adapter parce que il y a plusieurs réunions, rencontres qui se faisaient le soir parce que il y a beaucoup de personnes qui travaillent et tout. Et ben voilà, c'est vrai que c'est un casse-tête. Il faut chercher d'autres moyens, des horaires qui parfois n'arrangent pas. Et donc, voilà, on essaie de faire avec, Mais j'avoue que vivement que ce couvre-feu-là disparaisse et qu'on retrouve nos habitudes.
Alors, voilà. Pour le diocèse de Rodez, donc, on sait, avant de parler un petit peu de, peut-être du synode et de ses actes, donc on va parler des fraternités donc missionnaires de proximité. Déjà, vous pouvez nous dire, en fait, décrire un peu à quoi ça ressemble. C'est quoi ? C'est la version diocésaine des maisonnées de la communauté de l'Emmanuel, c'est-à-dire en fait, ce sont des groupes de chrétiens qui sont invités à se réunir un peu partout dans le diocèse et quoi, de manière hebdomadaire ?
Voilà, ce sont des groupes de chrétiens et même ouverts à des non-chrétiens pour réfléchir autour de la parole de Dieu, mais aussi de la vie. De la vie courante, de ce qui se passe, de l'actualité et tout. Et donc, ces fraternités missionnaires sont des cellules d'église. Vous savez, il y a l'église universelle, mais aussi il y a l'église particulière et c'est de petites cellules qui se retrouvent pour prier, pour s'accueillir mutuellement, pour échanger. Voilà, donc dans le diocèse, il y a une quatre-vingtaine de ces cellules-là, de ces fraternités missionnaires de proximité qui se regroupent une fois par mois ou deux, certains selon ce qu'ils ont accepté de faire, selon leur aussi le moyen.
Alors on peut trouver donc sur le site de votre diocèse les buts de cette fraternité: favoriser la rencontre, l'échange, l'attention à toute personne, la vie fraternelle, approfondir l'accueil de la parole de Dieu, être un lieu d'information et une meilleure intelligence de la vie de notre Église, et enfin être un lieu qui nous envoie pour rejoindre d'autres. Il faut dire donc que ça fait, ou peut-être non, donnez-nous un petit peu plus de détails sur la manière dont ça se passe. Vous avez même des fiches sur le site de votre diocèse pour essayer d'accompagner au plus près ceux qui se réunissent en fraternité. Comment ça se passe, une soirée de fraternité? On partage donc essentiellement autour de la parole de Dieu, c'est ça?
Oui, alors le déroulement d'une rencontre pourrait être un accueil convivial pour se donner des nouvelles personnelles et vivre une véritable hospitalité, un partage de la parole, un échange à partir de thèmes et de questions apportées par les participants, c'est-à-dire ce que nous vivons au quotidien, un partage d'informations sur la vie du village, du quartier, de la paroisse, du doyenné, du diocèse, puis une prière et enfin un moment de convivialité pour cultiver l'art de vivre en frères et sœurs. Et donc chaque participant pratiquera l'écoute bienveillante pour risquer quelque chose de lui dans ce partage-là.
Alors, et on voit, oui. À propos de ce temps de partage, peut-être vous pouvez insister, pourquoi est-ce que vous, les actes du diocèse, en fait, le diocèse de Rodez donc, a vécu un synode, ça a été l'occasion de se redire donc, qu'il fallait être, en mission, et tous ensemble, et donc on a l'impression que la première cellule de cette réalité ou de ce grand élan missionnaire, c'est donc ces fraternes missionnaires de proximité, et au cœur de ça, la parole de Dieu. Redites-nous pourquoi c'est important, peut-être, dans toutes ces initiatives de prière, de ne pas passer au-dessus de la parole de Dieu.
Oui, c'est en fait la parole de Dieu qui nous rassemble. C'est d'abord autour de cette parole-là. Mais il est vrai que, bon, en ouvrant cela à d'autres qui ne sont pas chrétiens et tout, mais dans la parole de Dieu, on peut trouver beaucoup de solutions ou beaucoup de consolation à nos problèmes aujourd'hui. Et il faut oser ouvrir cette parole-là et la partager, qui nous invite aussi à la mission. Et la mission, c'est aller vers les autres, oser sortir de soi, aller vers d'autres pour oser une rencontre fraternelle. Et je dis souvent, une église qui n'est pas fraternelle n'est pas celle de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a créé une église et il nous a demandé de nous aimer les uns des autres comme des frères et sœurs. Et donc, nos églises sont fraternelles et c'est pour apprendre cette fraternité que nous demande cette parole de Dieu-là, que ben voilà, les fraternités missionnaires de proximité sont pour nous aider à grandir dans la foi, mais aussi dans cette mission que le Christ nous a confiée. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Alors, je trouvais à l'occasion du premier dimanche de la parole de Dieu, c'était le 26 janvier dernier, cette parole du pape François, c'était en 2019, dans la basilique Saint-Pierre, la parole qui sauve vient dans nos complexités, dans nos obscurités. Aujourd'hui, comme alors, Dieu désire visiter ces lieux où nous pensons qu'il n'arrive pas, disait le pape François à l'occasion de ce premier dimanche de la parole de Dieu. Vous avez pour le diocèse de Rodez une année du baptême et de l'Esprit Saint qui a été lancé par votre évêque dans une lettre pastorale du 10 janvier dernier. Est-ce que vous pouvez, pour finir, nous en dire quelques mots?
Alors, cette année du baptême qui conduit à l'année de l'Esprit Saint commence cette année en 2020 jusqu'en 2021 pour nous aider à revisiter notre foi et à aller à la source du baptême qui nous invite à trois choses essentielles: être prêtre, prophète et roi. Prêtre pour célébrer les mystères et prophète pour annoncer, c'est-à-dire être missionnaire, et roi pour servir. Et donc c'est triamunera de l'Église nous permettent vraiment de revoir la source de notre baptême. Et le Père évêque, en écrivant cette lettre pastorale, veut faire redécouvrir par chaque chrétien ce besoin d'aller aux sources de notre baptême, et donc de revoir comment nous sommes, notre être de chrétien, pour nous aider à grandir dans la foi. Et donc, l'année prochaine, ce sera l'année de l'Esprit Saint. Et cette année de l'Esprit Saint qui nous aidera à savoir que l'Esprit, nous ne sommes pas seuls dans cette mission-là et que l'Esprit de Dieu nous accompagne. Et donc, ne pas avoir peur pour continuer cette mission en tant que baptisé. Voilà.
Eh ben merci Père Jean-Didier Sautaudet pour ce coup de projecteur sur les fraternités missionnaires de proximité. Je m'étais noté une autre phrase du pape François, toujours. Cette fois, c'était à l'occasion d'une audience de l'année 2020, cette année si compliquée, où il a beaucoup insisté sur la prière. Et en tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans la presse. La prière est le souffle de la foi, c'est son expression la plus appropriée, comme un cri qui sort du cœur de ceux qui croient et se confient à Dieu, disait le pape. Pour les informations pratiques pour la communauté de l'Emmanuel, un site internet, emmanuel.info. Info, rubrique près de chez vous, Occitanie. Pour le groupe de prière Saint-Louis de France, rendez-vous dimanche prochain pour la messe pour la France à la chapelle Saint-Jean-Baptiste à 9h15. Et sinon, c'est les deuxièmes samedis de chaque mois. Donc là, ça sera le deuxième samedi de mars à l'Adalbad à 14h à Toulouse. Et pour le diocèse de Rodez et ses fraternités missionnaires de proximité, un seul rendez-vous, c'est le site internet du diocèse de Rodez. Un grand merci à vous. À la technique, Christophe Aubry. Vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.